Europe 1,
11h midi 30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est le programme ?
Eh bien Julia, comme tous les jours, on va démarrer en se posant une question très importante. La résilience est-elle à portée de tous ? Alors vous savez, c'est cette faculté à s'adapter et à rebondir malgré les épreuves de la vie. Pour en parler de cette notion complexe, nous vous proposons aujourd'hui un témoignage, celui de Marine Barnett. Elle a appris à 21 ans qu'elle souffrait de sclérose en plaques et elle sort justement aujourd'hui un film, ça s'appelle Rosie, un film sur son parcours extraordinaire et un voyage contre la maladie. Ce sera un entretien très inspirant, vous verrez.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier bien-être du jour dans lequel on vous propose aujourd'hui une initiation à l'ASMR. L'ASMR, quelque chose d'un peu curieux, vous allez l'entendre, qui devrait faire du bien à vos oreilles. L'ASMR, ce sont ces bruits, ces chuchotements, il y a des tas de vidéos disponible sur internet. Certains en raffolent pour se relaxer ou s'endormir, d'autres pas. On verra comment ça fonctionne concrètement avec Florian Boulot, il est youtubeur ASMR.
Ensuite, Julia, à midi dans notre séquence Tendance, la chronique gastronomie du jour, c'est la journaliste Sophie Menu qui va l'apporter. Elle nous apporte aujourd'hui un ingrédient qu'on adore, le café. Et on ne va pas simplement boire une petite tasse, on va mettre véritablement le café dans notre assiette aujourd'hui. Ensuite, il y aura la chronique Tendance d'Edouard Dutour. Dans ce tour de table, ce midi, il nous invite à découvrir toutes les tendances qui seront à l'honneur en 2022. On parlera d'escalade, de collier de perles, de grand-mère, tout un programme.
Et enfin Mélanie, on va clôturer cette séquence en beauté avec notre experte en la matière, notre chère Maud Ravier. Elle a pensé à tout pour nous en ce début d'année. Elle va nous apprendre toutes ses astuces pour détoxifier non pas notre foie après les fêtes, mais notre peau.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente de vous faciliter la vie au sens large. On s'intéresse à notre conso, notre vie amoureuse, notre vie professionnelle. Bref, on tente de vous donner toutes les clés possibles pour être bien dans votre corps et dans votre tête. Alors ce matin, on va se poser une question précise. La résilience est-elle à portée de tous ?
Et oui Mélanie, je reviens un peu sur le mot résilience en lui-même. Au départ, c'est un concept physique, ça désigne l'aptitude du corps à résister à un choc. Mais si on applique ce concept aux sciences sociales, eh bien c'est notre capacité à réussir à vivre positivement, même si l'on subit du stress ou encore une grave maladie par exemple. On va détailler tout ça avec notre invité dans quelques minutes.
Détouiller aussi.
On va détouiller dans un instant.
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'avec Clément Lanoux, on va pas détailler, mais on va détouiller. Moi, ma question, Clément Lanoux, bonjour. C'est comment vous avez fait sur ce thème pour interroger les Français et tendre votre micro dans la rue ?
J'ai fait exactement comme vous, Julia. Bonjour à tous. Je suis parti avec un mot en me disant la résilience, c'est un mot de plus en plus courant qu'on entend sans vraiment savoir la définition. Je me suis renseigné, les adultes connaissaient. Donc je me suis tourné vers les enfants et vers les ados, c'est toujours beaucoup c'est plus drôle. J'ai été interrogé un ado et je lui ai dit « C'est quoi, selon toi, la définition de la résilience ?»
C'est quand t'as résilié un contrat, que tu l'as déchiré, arrêté.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Déchiré, arrêté un contrat. Donc comment ça se passe ? J'ai demandé aux enfants. Donc la résilience, c'est quoi ? J'ai pas bien compris. Comment c'est quoi une résilience ? Si moi, je veux faire une résilience, alors ?
Alors, première étape pour commencer une résilience. Alors, tu vas dans le magasin, tu dis « J'aime pas, je vais arrêter ». Ok ? Et si vraiment c'est un peu nul, tu dis je veux me faire rembourser.
Donc voilà.
C'est pas mal.
C'est la résilience. Du coup, le contraire de la résilience, ce serait quoi ?
Mais c'est que tu veux t'abonner. Genre s'abonner à Netflix, par exemple. Ça, c'est le contraire de la résilience.
Donc je pense qu'on confondait avec la résiliation. Résilience. Je pense qu'il y avait une erreur. Mais c'est important de reprendre les bases avant de rentrer vraiment dans quelques minutes dans le sujet et de parler justement du film. Juste avant, donc j'ai demandé aux enfants, moi je ne partirai pas d'ici, les enfants. Tant que vous ne m'aurez pas donné la vraie définition de la résilience. Là, il y a eu comme un silence, et puis les enfants sont beaucoup plus malins que nous.
Dis Siri, c'est quoi la résilience ?
La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Dois-je continuer à lire ?
Non, merci.
Ça m'a suffi, mais je me suis quand même renseigné. Après, j'ai dit, bon, est-ce que vous avez compris au moins ce que Siri a dit ? Et par grand bonheur, j'ai trouvé.
Alors, c'est quand tu fais un échec, genre que quand tu fais plein d'échecs dans un domaine, et que de cet échec, tu es le plus fort après.
Bah, parce
que
mal,
ça fait des échecs.
c'est pas mal, hein.
Ouais, c'est même très très bien. J'avais envie de dire bravo à cet enfant.
Bah oui.
Et les autres,
quel âge
alors,
celui-là, vous savez?
25 ans.
10 ans, mais wow. Ils avaient tous environ 10 ans.
Et au bout de combien de temps il t'a donné ça comme info?
Alors, celle-ci, ça a été très rapide. Après, c'est une parmi tant d'autres parce que les autres, j'ai admis. Vous avez bien compris, les enfants?
Je comprends rien du tout.
Voilà. Donc, si vous pouvez nous éclairer, on va aborder le sujet du jour, la résilience.
Merci Clément Lanoux pour ce reportage très instructif, très croustillant, franchement. Ouais. C'était délicieux pour démarrer cette émission, c'est parfait à présent. On va accueillir notre invité du jour, c'est vous Marine Barnérias, bonjour.
Bonjour, déjà vous... merci beaucoup Julia et Mélanie de m'accueillir, et puis enchantée Clément.
Enchantée, bonjour.
C'est tellement cool de commencer avec des enfants.
Ben,
c'est
pas mal, je n'y suis pour rien, moi, ceux qui sont très forts.
Il est tellement fort. Alors je vous présente, vous êtes la réalisatrice du film documentaire Rosie, qui sort dans les salles aujourd'hui. Votre film raconte l'histoire de votre lutte contre la sclérose en plaques à travers un voyage initiatique en Asie, en Océanie. On va y venir, mais on va reprendre du début déjà. À quel âge avez-vous appris justement le diagnostic? De quelle façon? Et puis quelle a été votre réaction finalement dans la foulée?
Alors en fait, j'aime bien commencer avec cette âme d'enfant, parce que quand il nous arrive un aléa, quel qu'il soit dans la vie, on est connecté à cette espèce d'instinct de survie qui est très infantile en fait, qu'on perd quand on grandit. Et donc moi, le 3 avril 2015, le diagnostic tombe, je suis atteinte de sclérose en plaques, donc une maladie neurodégénérative. Et quand on me donne ce diagnostic sur mon, donc vraiment sur mon lit d'hôpital avec une brochure, et on me dit « écoutez, j'ai mon service à finir, je reviens après », là j'ai sclérose en plaques, et je me dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc à ce moment-là, le « qu'est-ce que ça veut dire ?», la première question qui arrive, c'est « pourquoi moi ?» Qu'est-ce que c'est que ce mot « immonde » Et on va taper sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'est la pire chose à faire, d'aller regarder sur les réseaux sociaux ce qu'un, même un panari, on a l'impression qu'on va mourir demain. Donc, un sclérose en plaques, enfin, moi, j'avais l'impression que j'allais mourir.
On voit une vie incurable, de toute façon, très vite. Hein,
Auto-immune, c'est une maladie qui évolue avec le temps. On peut jamais prévoir comment on peut évoluer. C'est la première cause de handicap en France après les accidents de la route. Et donc, il y a une multitude de questions qui arrivent. Et là, c'est là où la vie est magique. Et c'est là où je me dis aussi que, à ce moment-là, il y a cette petite graine qu'on a tous dans notre cœur. C'est cette petite graine qu'ont les enfants, qui ne réfléchissent pas trop au comment, au pourquoi, à toutes les définitions qu'on cherche dans notre quotidien, nous, pour être heureux. Ils sont simples, ils sont instinctifs. Et là, il y avait cette espèce d'instinct de survie qui est arrivé. Et je me suis dit, Marine, j'ai un corps, un esprit et une âme, il faut que j'aille les découvrir.
Alors vous dites qu'au début, en tout cas, vous étiez très souvent en colère. Comment ça se manifestait?
En fait, la colère, elle est arrivée à différents moments. Déjà, la colère sur le lit d'hôpital et la colère 2 semaines après n'étaient pas la même. Ce qui est intéressant, c'est chaque aléa qu'on peut vivre. Moi, il s'est avéré que c'était une sclérose, mais on en a tous dans notre quotidien. Des choses très différentes. On peut aussi accompagner des gens qui vont pas bien. Et donc, en fait, la haine, elle évolue avec le temps. Elle évolue. Au début, il peut y avoir beaucoup de colère, il peut y avoir de la haine, il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir une multitude de questions, il peut y avoir de la rage. Et ensuite, on commence à dompter tout ça. Et je me suis tout simplement rendu compte qu'au début, je luttais énormément contre ça. Je n'acceptais pas, j'étais dans un déni total, donc dans une certaine superficialité de « je veux montrer que je suis forte, Clément.
»
Je veux montrer que je suis costaud, je veux montrer que j'ai pas envie de mentir. J'avais envie de mentir, en fait, sur l'image que j'étais vraiment. Jusqu'à un moment où la vie, elle m'a ôté la vie une deuxième fois. Et là, elle m'a dit « ma cocotte, maintenant, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes de te mettre une carapace et va voir l'envers du décor. » Et on est dans un monde aujourd'hui où on est toujours connecté au décor, à ce qu'on voit des gens. Et l'envers du décor, au final, c'est tellement plus inspirant.
Clément ?
Et est-ce qu'il reste de la colère aujourd'hui, alors ? Parce qu'on disait qu'elle évolue.
Eh bien, écoute, la colère, elle est aujourd'hui, elle existe, évidemment. Sinon, ça serait chiant à 28 ans d'avoir plus de colère en soi, quand même. Justement, c'est loin d'être un discours de perfection, de guérison, d'une cohabitation parfaite. Non, c'est ça qui est bien. C'est que jamais rien n'est acquis, donc ma colère, elle a évolué avec le temps. Maintenant, elle n'existe plus, je ne suis plus en colère envers ma sclérose en plaques que j'ai transformée en Rosie. Je trouvais ça plus joli de cohabiter avec Rosie.
Oui, vous l'appelez comme ça. Hein.
Ouais, je trouve ça plus sympa de cohabiter avec Rosie que sclérose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette colère, elle se transforme avec le temps. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est de se dire que j'ai appris à aimer ces nouveaux paradoxes. J'avais 21 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 28, il s'est passé plusieurs années. Et donc aujourd'hui, j'ai des nouvelles peurs qui arrivent, des peurs voilà, qu'on a tous dans notre quotidien, qui ne sont pas forcément en lien avec la maladie.
Et mais ça, c'est rassurant, en fait.
Bah ouais, grave.
C'est la vie qui reprend le dessus. Marine Barnerias, vous allez rester avec nous. On va poursuivre cet entretien avec vous dans un court instant. Et vous allez nous raconter ce voyage incroyable. Mmh. Celui qui est aussi dans votre film Rosie, dès aujourd'hui dans les salles. Nouvelle-Zélande, Birmanie, Mongolie. On part en voyage dans quelques minutes sur Europe 1. La sclérose en plaques, elle lui a mis un bel uppercut, notre invité. Et ça ne l'a pas empêché de s'envoler. Vous allez l'entendre. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Et oui, les Destiny Childs, Beyoncé, ses sœurs. C'est un peu comme nous dans ce plateau,
c'est ça,
non
c'est...
On s'entend bien. Vous n'avez pas levé pour danser. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a un bras de musique. Ah, voilà,
c'est ça aussi la résilience.
C'est ça aussi, c'est quand on ne sait pas danser et pourtant se donner en spectacle. Alors de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. La résilience est-elle à la portée de tous? Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a été à la portée de notre invité ce matin. C'est vous, Marine Barnerias. Vous êtes la réalisatrice du film documentaire Rosie, qui sort dans les salles aujourd'hui et dont on va justement écouter tout de suite un petit extrait.
C'était en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicap en France.
Je suis partie sans traitement.
Ça sera 9 mois de voyage.
Je suis pas du tout une aventurière. Mais j'avais un objectif. Ressentir.
Alors, on a juste avant évoqué avec vous votre diagnostic. À 21 ans, on vous a annoncé de façon assez brutale que vous aviez une maladie incurable, la sclérose en plaques. Et donc, après ce diagnostic, vous avez décidé de faire un voyage initiatique. Mais dans quel but au départ? Pourquoi cette idée alors que vous n'êtes a priori pas une globe-trotteuse?
En fait, ce qui est marrant, Julia, c'est qu'on se pose toujours la même question. Dès qu'on fait des choix un petit peu improbables, il faut toujours avoir la réponse du pourquoi. Et parfois, il n'y a pas de pourquoi. Comme vous, si vous avez monté cette émission, parfois c'est des feelings et vous vous dites pas « Oh là là, il faut ceci, cela, comme ça ». C'est des espèces d'instincts qui arrivent. Et moi, c'était pareil à ce moment-là. Quand j'ai perdu la vue, je me suis dit « Mon corps, il est en train d'essayer de me parler ». Et donc, je me suis tout simplement dit « Il faut que j'aille ressentir ce corps. Il faut que j'aille marcher. Il faut que j'aille comprendre pourquoi mes yeux sont en train de partir. Pourquoi j'ai un bras gauche qui est engourdi. Pourquoi je peux perdre mes jambes du jour au lendemain. J'ai besoin. Mon corps n'est pas qu'un véhicule. » C'est pas qu'un endroit c'est pas que quelque chose qui me permet d'un point A, d'aller d'un point A à un point B. Et donc, tout simplement, j'avais besoin de traverser un pays dans son intégralité pour aller sentir tous les membres de mon corps. Dès qu'on a un problème, quel qu'il soit dans notre vie, qu'on arrive avec notre boss, notre N+2, notre N+1, n'importe qui, notre mec, notre famille ou notre maladie, ou qu'on accompagne quelqu'un qui ne va pas bien, le cerveau n'arrive pas à se mettre en off. Et dans notre société, le mot silence est un mot qu'on ne connaît pas. Et moi, la première, je ne le connaissais vraiment pas. Et donc, je pense que ce silence-là, dès qu'il n'y avait pas de bruit, il fallait que je le comble par une musique, par quelque chose, par un rire. C'était impossible d'être dans le silence avec moi-même. Et donc, ce silence-là m'a appris tout simplement à me dire que le silence était bavard. Et que les réponses, elles étaient parfois beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Et Marine, alors vous n'êtes pas partie quand même complètement toute seule, puisque vous êtes partie avec cette caméra, cette idée de ce film tout de suite. Ouais. Comment est venue l'idée de filmer tout ça finalement?
Bah, écoute, je ne sais pas du tout, c'est assez étrange, parce que déjà moi j'aime bien répéter ça aussi, qu'il y a eu des étapes. Je ne suis pas partie du jour au lendemain en me disant c'est bon, je prends mon sac à dos. Il s'est passé très peu de mois, certes, mais j'étais dans un déni au début. Je ne voulais pas que les gens puissent étiqueter sclérose en plaques sur mon front. Sauf que je n'avais aucun moyen pour partir. J'ai fait une cagnotte. Elle a fuité sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvée avec 344 participants inconnus. Et je me suis dit, punaise mince, je peux plus rembourser mes billets. Je suis obligée de partir.
Il faut que j'en fasse quelque chose, non?
C'est ça? Et voilà, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc je suis partie. Et pour en faire quelque chose, je suis partie avec mon premier téléphone portable, avec photo. Et j'ai fait une page Facebook où je leur ai partagé mon voyage.
Et franchement, ce voyage, vous l'auriez fait si vous n'aviez pas eu la sclérose en plaques?
Écoute, Julia, je pense que je l'aurais fait, mais différemment. Je pense qu'on a tous en nous des petites choses qu'on n'arrive pas à faire sortir. La résilience, elle est à la portée de tout le monde. Moi, aujourd'hui, on dit que je connais la résilience, mais pas plus que ma voisine ou que quelqu'un que je vais croiser tout à l'heure. La résilience, c'est un mot, même moi aujourd'hui, je ne saurais même pas comment le définir. C'est quelque chose qui fait partie d'un quotidien. Et c'est juste une question de décider, de choisir. Mmh. Et je pense que, évidemment, que Rosie a été un accélérateur. Mais je pense que je suis la même personne, je suis la même Marine qu'il y a 5 ans, mais je pense qu'elle m'a permis de griller quelques étapes.
Il y a une raison à Rosie, là, c'est par simple curiosité, pourquoi pas Micheline, par exemple.
Et même pourquoi pas Rosette.
Oui, bon, c'est
vrai, voilà. Il n'y en a pas, d'accord.
Ou Brigitte. Très
bien. Non, en fait, il y en a une, c'est que je suis pas du tout girly comme Nana, même si j'ai un petit truc à fleurs aujourd'hui. C'est juste que dans Sclérose, il y avait Rose.
Ah, oui.
Et moi, je suis pas du tout. J'aime pas le rose en plus, c'est paradoxal, tu vois. Mais sauf que j'étais en train de marcher en Nouvelle-Zélande et j'écrivais dans mon journal de bord tous les jours parce que ça me permettait d'extérioriser mes kilomètres. Et quand j'écrivais sclérose, j'en pouvais plus de marcher avec sclérose.
Ah, oui.
Et quand je me répétais ça en boucle, c'est comme quand tu te répètes divorcé, chômeur, je sais pas quoi, n'importe quoi. T'as pas envie de vivre avec ça. Et en fait, dans sclérose, il y avait Rose. Et là, je me suis dit, mais oui. Mais Rosie, c'est tellement plus joli. Ouais,
mais est-ce vrai. Que vous vous êtes organisée d'une manière particulière pour ce voyage, en prenant justement en compte Rosie, votre maladie, en termes de préparatifs, ça a été plus compliqué qu'un voyage dit normal?
Bah, en fait, ce qui est plutôt génial, c'est que comme je suis partie très rapidement, j'ai pas eu beaucoup de temps d'orga. Moi, d'habitude, j'aime bien quand même m'organiser, etc. Là, je savais que si je m'organisais, je décollais pas.
Mais donc, sans médicaments, sans...
Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec une petite trousse, avec des médicaments, etc. Si jamais j'avais des poussées, les poussées, c'est des formes de paralysie que la sclérose en plaques peut engendrer. Et donc, je suis partie avec ça. Au début, j'ai voulu partir complètement sans traitement, puisque je ne suis absolument pas contre l'accompagnement médical, loin de là. Et je pèse mes mots en disant ça, surtout aujourd'hui, dans ces temps très compliqués, que je trouve que c'est fondamental de juste placer en première ligne ses ressentis, qui l'on est, ce qu'on ressent, notre émotion. Et en second plan, le côté raison, scientifique et médical. Et dans le sens, on est dans un monde aujourd'hui où on inverse le processus. On met la raison avant l'émotion. Et moi, je dis juste de faire les deux ensemble, mais juste d'inverser les choses. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir le meilleur médicament et le meilleur traitement.
Donc vous avez écouté votre émotion, vous êtes partie très vite,
exact.
Mais quand même, vous avez écouté la raison et vous êtes partie avec des médicaments.
Je suis partie avec des médicaments que je n'ai pas utilisés, parce que j'ai eu la chance que Rosie ne me pique pas pendant ces 9 mois. Et voilà. Et après, ça a été une vraie... on va dire collaboration avec Rosie aussi.
Clément. Et pourquoi 9 mois, c'est un hasard? Quand est-ce qu'on choisit de rentrer?
Eh bien écoute, 9 mois, ça a été un hasard total. J'ai fait 3 mois. Je suis partie 3 mois en Nouvelle-Zélande pour traverser la Nouvelle-Zélande à pied, en Birmanie, où j'ai découvert le silence en faisant une méditation vipassana pendant 12 jours, sans pouvoir parler ni lire ni écrire. Et la Mongolie, ça s'est passé pendant 3 mois aussi. Je suis rentrée, on va dire... Parfois, il y en a qui me disent, Marine, c'est le temps d'une gestation, j'en sais rien.
Voilà. C'est à ça qu'ils pensaient, je pense.
Bah, je sais pas, et tout est dans le film.
Ouais. La gestation, elle n'est pas dans le film.
Non,
j'arrive
sûr.
Pas avec un bébé à la fin.
On va pas raconter à la fin.
Pourquoi vous êtes partie toute seule? Vous auriez pu aussi décider de partir avec un très bon ami ou quelqu'un de très proche pour vous aider aussi au cas où, enfin, ou avoir quelqu'un à qui parler.
Mais tu sais, Mélanie, je pense que je partais déjà avec quelqu'un. Mmh. Je partais avec quelque chose que je détestais, qui était comme un compagnon de route avec lequel je ne voulais pas cohabiter. Et j'avais vraiment l'impression que si quelqu'un partait avec moi, ça allait être un supplice pour lui ou pour elle. Et puis, je n'avais absolument pas l'envie. J'avais tellement l'impression d'être 25 dans mon corps que j'avais besoin de me retrouver tout simplement pour essayer de se refaire confiance. Dès qu'on a un aléa, la première chose, notre meilleur pote qui arrive, c'est la paranoïa, c'est la peur. Et là, face à la peur, quand on dit « Non mais attends, mais crois en toi, écoute-toi », c'est impossible. C'est super compliqué. Et donc pour ça, moi, il me fallait du temps pour mettre petit step by step, en fait. Et de commencer par quelque chose de très physique.
Alors justement, ça c'est très physique, c'est un marathon que vous courez pendant le film. C'était pourquoi justement? Pour dompter votre corps? C'était pour avoir des sensations extrêmes? C'était quoi l'idée?
En fait, c'est une maladie qui ôte les sens. Elle ôte toutes les sensations. Donc le chaud, le froid, elle ôte la fonctionnalité du corps et aussi donc la vue. Et donc en fait, pour moi, j'avais besoin, indépendamment de la maladie, je m'en foutais, pour prendre le meilleur médicament, pour avoir le meilleur accompagnement et pour pouvoir cohabiter avec ça, il fallait que je me réapproprie ce qui était en train de partir. Et on peut se le réapproprier de plein de manières. Moi, ça a été la marche. J'avais besoin de marcher. J'avais besoin de savoir ce que c'était qu'un mollet qui me faisait mal et pas une maladie qui prenait vie. J'avais besoin de savoir ce que c'était qu'une courbature et de me dire que je dissociais ça à la maladie qui arrivait. Ça a été mon cheminement. Mais après, il y a l'art aussi. Il y a plein de gens qui ont besoin de dessiner, de peindre, de jouer de la musique. Il y a plein de projets possibles pour commencer une cohabitation avec quelque chose qu'on n'aime pas. Et le meilleur des médicaments, ça reste, et ça j'en suis certaine, ça reste d'écouter ce que tu as Clément, ce que tu as Mélanie, ce qu'on a tous, cette petite voix qui nous dit « monte ça, Vas-y, va marcher, va faire ce projet, dessine ceci, fais de la poterie, j'en sais rien, mais fais quelque chose qui a du sens pour toi.
Alors Marine, dans le film, vous parlez aussi de la thérapie de l'autostop. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est ?
En fait, je trouve qu'on est souvent dans un monde où on a toujours des idées préconçues des choses. Où on se dit, punaise, on va à la télé, c'est sympa, la radio, c'est comme si... On a des idées préconçues des mondes. Et donc, quand on voit les films, on se dit que l'autostop, c'est super stylé. On imagine le van, le surf, la main au large, la personne qui s'arrête, la discussion de dingue. En fait, c'est le bordel. Et donc, c'est ça qui est marrant. C'était qu'au début, c'était les premiers kilomètres de mon voyage, j'étais dans une espèce de je contrôlais. C'est-à-dire que c'était mon cerveau qui voyageait. Je ne faisais pas confiance à ce qui m'entourait. Et à partir du moment où j'ai commencé à enlever la première carapace du contrôle, la première carapace de, entre guillemets, ce côté aussi du jugement. Moi, je me suis rendu compte à quel point je pensais ne pas juger, mais je jugeais énormément les gens que je ne connaissais pas. Et que j'ai commencé à enlever tout ça, bah, je commençais à être beaucoup plus proche, en fait, de Rosie. Et c'est vrai que quand tu regardes une fleur, quand tu regardes cette rose, tu la regardes pas, tu la prends, elle te pique. Et quand tu la regardes avec un tout petit peu plus de hauteur, bah, tu vois beaucoup plus les pétales que les épines. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est qu'au moment où je commençais à lâcher prise, et bah, c'est là où les autostops arrivaient, comme j'en ai jamais eu, quoi.
Super. Marine Barnérias, merci. Surtout, vous ne bougez pas. On va continuer ce voyage initiatique avec vous. Vous avez encore d'autres expériences inoubliables à nous raconter. Car on l'a bien compris déjà jusque-là, votre sclérose en plaques ne vous a pas empêché de vous surpasser, de vous envoler, comme vous dites. Et d'ailleurs, je crois que votre témoignage a déjà inspiré certains de nos auditeurs. Ils ont eu aussi quelques questions pour vous. Je le rappelle, vous pouvez encore nous en laisser au 3921, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, par exemple. Alors, à tout suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On écoute ce matin le témoignage très inspirant, vitaminant même, de Marine Barnérias. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du film Rosie, qui sort dans les salles aujourd'hui même et qui relate votre voyage initiatique dans 3 pays malgré votre sclérose en plaques. Alors vous nous avez expliqué pas mal de choses déjà tout à l'heure, et notamment que vous aviez eu des peurs aussi, hein, et je crois qu'il y a un truc assez rigolo, enfin, vous allez nous expliquer, vous matérialisez vos peurs, vos craintes, vos doutes avec des cailloux. Ça vous a beaucoup aidé. Expliquez-nous comment on se sert des cailloux pour faire ça.
Alors, c'était pas vraiment matérialiser mes peurs avec des cailloux. J'ai vécu une expérience, je pense que j'aurais jamais pu imaginer ça avant. J'ai vécu 12 jours d'une méditation qui s'appelle la méditation Vipassana. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler, ni lire, ni écrire, ni regarder les gens dans les yeux. Donc, c'est-à-dire que c'est assez intense. Imagine 13 heures de méditation par jour. Ouais. Et donc, moi, au bout de 2-3 jours, beaucoup de personnes partent. Et le troisième jour, j'ai récupéré des cailloux, en fait, dans ce centre de méditation par terre. Et ça, on n'a pas de téléphone portable, on n'a rien, on peut même pas écrire, on peut rien faire. Pour, en fait, repérer cette notion du temps. Et en fait, avoir mes cailloux près de mon lit. Et après les 13 heures de méditation par jour, je prenais ce caillou et je le mettais sous mon lit. Et comme ça, je savais le nombre de cailloux, le nombre de jours qui me restaient.
Alors, on a une question de Samira. Hein,
Samira.
Samira sur Facebook, elle demande, avez-vous un autre projet comme celui-ci en vue d'ailleurs ?
Yes, Samira, j'espère que tu vas bien et que t'en as plein aussi dans la tête.
Vous allez où cette fois ?
Alors, j'ai des projets. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses quand elles sont faites. Ah. Donc en fait, là, j'accompagne Rosie. Et je pense que quand on a un petit peu goûté à cette aventure des rencontres et des voyages, elle nous quitte plus. Donc c'est vrai que là, je prépare dans ma petite tête qu'il y a un nouveau départ.
Mais ça sera un voyage en tout cas.
Je t'en dirai plus, ouais, Samira, quand ça sera acté.
D'accord. Bon, déjà, il faut aller voir Rosie et ça vous donnera une bonne idée du premier voyage.
Exactement.
On voit dans Rosie, donc justement, un jeune homme qui parle de votre maladie comme d'un don. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon que lui aujourd'hui ?
Ouais, Sébastien. Ce que je trouve assez... je dis ça comme ça. Ouais, Sébastien.
Ouais, Sébastien.
Non, ce qui est assez marrant, c'est que je pense que la vie, elle sait beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin. Et c'est assez étonnant parce que dès qu'il nous arrive quoi que ce soit, souvent on a des rencontres complètement improbables que vous faites dans notre quotidien, comme toute personne en fait. Et on se dit, mais comment ça se fait que j'ai rencontré cette personne à ce moment-là dans ma vie ? Ça nous arrive à tous. Il y en a qui décident de prendre cette rencontre comme juste une chance, ou d'autres qui se disent « ça veut dire vraiment quelque chose ». Moi, je crois à ce discours de « ça veut dire vraiment quelque chose ». Et donc, je suis convaincue aujourd'hui que la peur, nos maladies, les choses qui nous arrivent, nos blessures, nos failles, nos souffrances, en fait, elles ont toujours une raison d'exister. Et qu'à partir du moment où tu vois ton voisin de gauche qui va au top de sa vie, c'est génial. Mais il faut toujours se dire que la roue, elle tourne. et qu'il faut jamais, que tout est éphémère. Et ça, c'est la méditation qui m'a appris ça. C'est de ne jamais s'accrocher à quelque chose. Mais c'est comme des bonheurs. Et c'est comme des malheurs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais 24 sur 24 heureux avec le smile. On n'est jamais 24 sur 24 malheureux. Et à partir du moment où on a planté cette petite graine et que tu te dis que toute la vie est un cycle et que tu apprends à ne pas à ne pas posséder les choses, bah c'est génial.
Alors, vous êtes rapproché ou pas d'autres malades de la sclérose en plaques ou d'ailleurs d'autres maladies pour leur parler justement de votre parcours depuis ce voyage ?
Alors, écoute, c'était un choix assez personnel. Je ne suis pas allée chercher, des personnes atteintes de ma maladie. On a pu échanger, se rencontrer, etc. Moi, j'ai eu envie, en fait, de nous mettre tous un petit peu sur la même ligne. C'est-à-dire que qu'on soit atteint d'une maladie mortelle, d'un cancer, d'une sclérose en plaques, d'un aléa, quel qu'il soit, j'avais besoin pour moi, entre guillemets, de manière très singulière, de mettre cette maladie au même niveau qu'une personne qui n'a rien. Et de dire à la personne qui n'a pas forcément de pathologie, de lui dire, mais exprime-toi, ose aussi pleurer. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui, au final, d'avoir Rosie. Parce que mes pleurs, mes rires, mes émotions, j'ai appris à les extérioriser et à les évacuer. Alors que parfois, des gens qui peuvent paraître parfaitement en bonne santé, bah, on peut se dire, punaise, au final, il est un petit peu plus fleuriste que moi, celui-là. Il a un peu de taf. Et donc, en fait, c'est ça que je trouve bien aussi. C'est de remettre aussi à la fois de l'intensité, parce que c'est quelque chose d'important et de grave, ce que certaines personnes peuvent vivre au quotidien, mais de ne pas les stigmatiser et de ne pas dire, vous êtes comme si et vous devez beaucoup plus souffrir que moi. Non, bien au contraire.
C'est pas un concours. Marine, quand on a dit la question aujourd'hui de notre question de vie quotidienne, c'est est-ce la résilience, est-ce à la portée de tous ? On a bien compris qu'elle avait été à votre portée, mais qu'est-ce que vous diriez à des gens qui nous écoutent et qui ont une sclérose en plaques ou qui viennent d'avoir, je sais pas, un cataclysme médical dans leur vie ? Il n'y a pas forcément besoin de partir au bout du monde pour vivre ce que vous avez vécu quand même, j'imagine. C'est quoi votre conseil ?
Moi, la première chose que je leur dirais, c'est déjà d'aimer l'envers de leur décor. C'est-à-dire que le décor qu'ils veulent montrer aux autres, d'apprendre à aimer ce qu'ils n'aiment pas montrer aux autres. C'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais leur dire, c'est que la guérison, elle n'existe nulle part. À chaque fois qu'on dit « Ouais, punaise, il a guéri de ceci. » La guérison, en règle générale, dans tout dans la vie, elle laisse des blessures, elle laisse des séquelles. Et justement, c'est de sortir du discours stéréotypé de « Je veux être heureux. » Les fiches produits du bonheur dans tout. On va dans n'importe quel type de librairie maintenant. C'est comment être heureux, comment être la meilleure femme, comment être la meilleure, comment cohabiter, comment... En fait, c'est sortir, en fait, de toute cette liste et de tout simplement commencer à aimer ce qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, pour moi, c'est le début de la résilience.
C'est très chouette conseil, je pense. Ouais, ouais. Y a plein de trucs qu'on n'aime pas chez nous avec Mélanie. On va s'y atteler.
On va travailler.
On a une question pour vous de Charles sur Facebook qui vous demande comment vous allez en ce moment vis-à-vis de votre maladie. Est-ce que c'est toujours un combat de tous les jours ?
La maladie, elle fait partie de ma vie. Aujourd'hui, Rosie, on est en coloc. Elle ne m'a toujours pas repiqué. Mm-hmm. Elle est dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai toujours mes taches blanches dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'elle est active. Maintenant, Charlie, je ne sais pas comment ça va évoluer. Là, aujourd'hui, quand je te réponds là maintenant, je vais bien. Maintenant, demain matin, je verrai. Demain matin, peut-être que j'aurai plus mes jambes, plus ma main gauche, plus mes yeux. Je ne sais pas. Mais bon, toi non plus, Charlie, tu sais pas ce qui va devenir demain. Donc, autant profiter de chaque seconde. Et puis, le reste, c'est la vie qui s'occupera de tout ça.
Eh bien, merci beaucoup, Marine Barnier. De nous avoir accompagnés ce matin et surtout de nous avoir livré votre témoignage qui vraiment donne de l'espoir et qui permet de voir qu'on peut trouver, voyage au bout du monde d'ailleurs ou pas, des ressources en nous. Et je rappelle la sortie de votre film Rosie dans toutes les salles de cinéma dès aujourd'hui. Merci encore.
Merci Julia, merci Mélanie et merci Clément.
On va à présent changer de sujet, on va découvrir ensemble ce qu'est l'ASMR, cette méthode de relaxation, ces petits bruits, ces chuchotements qui font un carton sur le net. C'est notre dossier bien-être du jour.
Europe 1, 11h, midi 30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Alors, pour y voir plus clair sur ce qu'est précisément l'ASMR, on accueille tout de suite Florian Boulot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sophrologue et youtubeur ASMR. Votre chaîne, c'est Paris ASMR. Vous avez plus de 240 000 abonnés. Alors, on va tout reprendre et commencer par les bases. Ça veut dire quoi, ASMR ? Est-ce que vous pouvez nous le traduire ?
Alors, ça se traduit par la réponse autonome sensorielle culminante. Je ne suis pas sûr que ça vous aide.
Non, on va faire ASMR. On va faire ça. Mais ça date de quand ? Ça vient d'où, en gros ?
Alors, ça existe depuis des millénaires, bien sûr, et c'est le digital qui a permis d'y mettre un mot. C'est une sensation physique qui n'avait pas de nom jusqu'à ce que Jennifer Allen, aux États-Unis en 2010, donne ce sigle à ASMR, et vous ne savez toujours pas ce que c'est.
Toujours pas. Vous parlez bizarre, c'est ça ?
Ah non, je parle naturellement.
Non, pas du tout. Il n'a pas commencé encore. Il n'a pas commencé. Alors vous, vous avez découvert ça comment particulièrement? Et puis vous avez créé une chaîne YouTube justement. Mais ça a démarré quand pour vous cette aventure ASMR?
Alors moi, ça, cette aventure ASMR a démarré en
2015. Ah, il fait une voix bizarre, hein, il le fait. Il commence à nous initier.
Mais vous êtes aussi dans une fréquence ASMR, sans le savoir. Regardez, votre voix a changé depuis
Certainement. Secondes. Vous voulez dire que quand quelqu'un pratique l'ASMR, les autres se mettent au diapason?
C'est contagieux un petit peu.
Ouais, c'est contagieux.
Je suis en train de vous dire que j'ai un effet sur vous, mais non.
Ah mince, j'ai cru.
Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2014 à peu près, sur un blog. Je suis tombé sur... du coup, je clique sur le blog, je clique sur la vidéo, je tombe sur une femme blonde qui s'appelle Gentle Whispering, Maria, et qui commence à se brosser les cheveux, à plier du linge, avec des gestes très sensuels, disons-le. Et moi qui ne pouvais pas décrocher de cette vidéo. Ouais.
C'est un truc chelou, hein, c'est comme quelque chose.
Et c'était YouTube.
Ouais, c'était pas YouPorn.
Non, et pourtant on était à des années-lumière puisque ça n'était pas excitant, c'était relaxant justement. Et ce que disent les Américains, à l'époque on n'appelait pas ça la ASMR, on disait oddly satisfying, c'est-à-dire que les gens trouvent ça satisfaisant dans le sens de relaxant, mais étrangement satisfaisant, c'est-à-dire qu'on se sent relaxé malgré soi. Et je vous donne justement un bout de réponse, c'est que c'est une réponse autonome, c'est-à-dire que c'est en vous, votre système nerveux qui va réagir, enfin le vôtre ou pas.
C'est instinctif quoi, quelque part, hein, c'est ça?
C'est le corps qui réagit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas
mais
de volonté.
Mais vous, par exemple, ça a pris tout de suite en voyant cette nana plier son linge, ça vous a fait un effet. C'est les bruits qui sont issus de ce linge plié, de ces gestes tout doux.
Oui.
Clément, oui.
Il peut y avoir la réaction inverse, c'est des gens qui trouvent ça insupportable.
Bien sûr.
Et une réaction pareille du corps qui. Ça existe.
Bien sûr, ouais. Ça s'appelle la misophonie, quand vous détestez. D'ailleurs, moi, je suis moi-même misophone sur certains sons. Hein. La
crétrice.
Qu'est-ce que vous détestez, par exemple, comme son?
Le crissement, les bruits de bouche. C'est très tendance, les bruits de bouche. Je n'aime pas ça.
Évidemment, tout le monde se met en fer. Là, ce que je pourrais faire avec mon masque, par exemple, hein. C'est de la ASMR, ça, ou pas?
Oui, complètement.
Ouais,
complètement.
Okay, ouais. je suis pro, je vais me lancer, je crois.
Alors, quand je suis rentré dans Europe 1, je me suis équipé d'une petite papillote. Et vous voyez, par exemple, le crépitement. Ce genre de choses. Alors, on va dire que ça évoque le feu, mais même pas, en fait, sur certaines personnes, ça va déclencher leur sensation. C'est une sensation agréable, tingly sensation, une sensation au niveau du crâne qui va être étrangement agréable, un peu comme un massage, en fait.
Marine Barnérias, vous êtes restée avec nous, ça vous fait quelque chose, vous, quand vous entendez ces petits crépitements?
Non, mais justement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que ça s'utilise pour avant des opérations ou des choses comme ça?
Ça s'utilise pas officiellement, mais des gens l'utilisent en rémission, les gens l'utilisent pour mieux gérer la douleur, par exemple.
C'est une genre de méditation avec du bruit, quoi.
Alors, non, parce que la méditation, même si moi je ramène ça à la méditation, avant d'être une technique, c'est vraiment, faut vraiment se dire que c'est une sensation physique. En fait, il y a besoin de rien faire. Alors que la méditation, c'est un vrai travail sur soi.
C'est un vrai travail, oui.
On parlait de Vipassana tout à l'heure. Mmh. On observe tout, on est dans l'observation. Et là, c'est pas du tout le cas. On laisse quelque part le corps réagir.
On laisse le bruit rentrer dans soi. Quoi.
Alors, le son.
Pour vous donner justement une meilleure idée de ce qu'on va écouter, hein, quand on parle d'ASMR, on va vous proposer tout de suite de tenter l'expérience. Hein. On va écouter un extrait d'une émission spéciale ASMR Don't Lat raconte sur Europe 1. Écoutez bien, entièrement chuchoté.
Quand je rentre chez moi le soir, je déterre mon étui de clarinette au fond du placard. Je sors une hanche. Je la rabote avec une lame de rasoir pour la rendre la plus fine possible. Je la porte à mes lèvres. Je ne ressens aucune douleur. Et mon son est très doux, très fin. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois...
J'adore, on vient d'entendre donc Christophe Ondelat.
Chuchoté ou pas, vous l'aimez de toute façon.
De toute façon, je suis tellement fan. Je l'ai croisé dans l'ascenseur tout à l'heure, je crois qu'il a pris peur. Alors, en tout cas, tellement je l'aime. Donc, en tout cas, on l'entendait chuchoter le récit de Madame Clarinette, récit que vous pourrez retrouver en intégralité sur europe1.fr. Alors, Florian, là, Christophe Ondelat chuchote, mais c'est pas toujours à base de chuchotement. On peut écouter quoi d'autre?
En fait, le chuchotement fait partie des déclencheurs. On cherche à déclencher cette sensation. Donc, le contenu en soi, désolé pour Christophe Ondelat, même si c'était très réussi. Ce qui est ASMR, c'est pas tant les mots, c'est pas tant le savoir, c'est pas tant l'esprit que le son en tant que tel. Donc, du coup, le son devient un matériau. La voix devient un matériau sonore. Les claquements de bouche, par exemple. Moi, je retrouve ça chez Barbara. Quand j'écoute, par exemple, des enregistrements de Barbara, elle refusait qu'on retire ces petits claquements de bouche ou de langue avant le début d'un mot.
Mais ça, vous supportez pas ça, du coup?
c'est Barbara.
Ouais, tout passe avec Barbara. Parfois, on compare ça à des massages auditifs, enfin des massages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de dire les choses ?
J'aime bien cette idée pour ceux justement qui ne ressentent pas l'ASMR en écoutant un son. Parce que justement, si vous ne savez pas ce que c'est très difficile d'expliquer une sensation physique quand on ne la ressent pas. C'est comme si je devais vous expliquer ce que c'est que le goût du sucre, par exemple. Vous ne ressentez pas le sucre.
On connaît ça, ça va.
C'est pareil pour l'ASMR. Si je vous explique ce que le son va faire sur moi, au niveau vous pourriez imaginer, par exemple, que si vous allez vous faire masser un jour, vous êtes très stressé, vous allez sentir quelque chose comme melting, qui va fondre, qui va faire fondre votre cerveau, vous allez frissonner, c'est exactement pareil, comme si le son pouvait vous toucher.
Clément ?
J'ai une question de débutant, si on veut se lancer justement dans cette discipline, est-ce qu'il faut absolument un micro, un casque, ou le simple, la papillote que vous aviez là tout de suite, ce bruit, si on le fait juste à l'oreille, on peut... C'est également de l'ASMR.
Tout à fait. Alors, dans la vraie vie, ça marche.
Ça fonctionne.
Vous n'avez absolument pas besoin d'écouteurs, mais c'est vrai que si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez avoir cet effet un peu stéréo, c'est-à-dire que la personne va vous parler d'un côté, puis de l'autre, et si vous fermez les yeux, vous allez vraiment sentir une proximité, ce qui peut être très déroutant aussi.
Alors, je peux juste te poser une question, mais on ne peut pas faire de l'ASMR tout seul ?
Est-ce qu'on peut se masser seul ? C'est pareil. Est-ce que ça va faire autant d'effet que si on va prendre un massage ?
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille voir une personne qui est spécialiste d'ASMR et qui utilise des bruits.
On va sur la chaîne YouTube de Florian.
Alors c'est pas du tout un talent l'ASMR, hein, qu'on soit clair. C'est vraiment comme si je vous donnais par exemple une plume et que cette plume était votre chuchotement, les sons, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai décidé sur ma chaîne de parler un peu de Paris, le côté un peu image épinale à la Mélino... j'allais dire Amélie Nothomb, pas du tout. Amélie Poulain. Pourquoi pas Amélie Poulain, vous savez, tous ces petits bonheurs, vous savez, pas ces plaisirs, ces petites joies du quotidien, de s'émerveiller devant l'odeur, la lumière du soleil, le quotidien, un petit chocolat, tous ces petits moments, vous voyez. Et je trouve que justement l'ASMR, c'est un outil pour moi. Là, je vous parle vraiment de comment je le vois. En tant que sophrologue, je l'utilise dans mon cabinet. Je mets un casque, exactement le même d'ailleurs que chez Europe 1, et j'utilise cette narration, vous voyez, cette voix, parce que je trouve qu'elle ramène quelque part... peut-être à la voix chuchotée quand vous étiez enfant.
C'est ça, c'est à ça que ça m'a fait penser tout à l'heure. Florian Boulot, on n'en a pas fini avec vous, on va continuer cette immersion sonore dans le monde mystérieux relaxant de l'ASMR dans quelques minutes. Alors je vous préviens, il va y avoir des petits bruits, hein, des clapotis très agréables à écouter. On va bien se détendre, peut-être même frissonner ensemble. Mais nous, attention, on n'est pas endormis, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et alors là, vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Nous sommes en plein bien-être, mais alors à fond. On vous fait découvrir l'ASMR ce matin, une technique de relaxation qui cartonne sur Internet. On fait cette découverte avec vous, Florian Boulot. Vous êtes praticien en sophrologie et youtubeur ASMR. Votre chaîne, c'est Paris ASMR, avec déjà 247 000 abonnés. Alors, est-ce que ça touche tout le monde ? Je veux dire, est-ce que tout le monde peut être réceptif à l'ASMR.
Je pense qu'on a tous je vais me permettre d'utiliser une expression de Marcel Proust, puisqu'il y a une belle exposition à Paris, hein, un roman parisien. je pense qu'on a tous une Madeleine de Proust sonore, c'est-à-dire qu'il faut trouver sa petite mémoire sonore qui va, sans le comprendre vraiment, sans raisonner, vous ramener à un moment de votre enfance, peut-être un moment doux, un moment calme, un moment de sécurité, jusqu'à peut-être même votre paradis océanique, vous savez, dans le ventre de votre maman. Et pour moi, par exemple, le chuchotement, c'est mon déclencheur préféré. C'est le déclencheur préféré de toutes les personnes qui aiment l'ASMR.
Ah d'accord. Mais est-ce que si moi j'aime le roulis du train, par exemple ?
C'est peut-être un son... Oui, il y a une forme de cliquetis. Alors si c'est un son relativement doux, ça va. Si on l'atténue, si on l'écoute à volume doux, ça peut fonctionner, je pense, oui.
Est-ce que vous pensez que ça se travaille ? Parce qu'il y a peut-être des gens là, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu chuchoté depuis le début de votre entretien, il y en a peut-être que ça gêne là et que ça horripile au contraire. Est-ce que ça se travaille ? Est-ce que ça peut se développer selon vous ? Même si au départ, ça ne nous fait pas grand-chose, voire même ça nous horripile, quoi.
Je pense que si on n'y est pas vraiment réceptif, il ne faut pas vraiment forcer les choses. C'est simplement une approche au monde. Et si vous n'y êtes pas sensible, vous aurez forcément d'autres biais pour aller à la relaxation. Le yoga, la méditation, etc.
Oui, alors vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des gens que ça crispe, hein, non ?
Bien sûr.
Dans ces cas-là, on n'insiste pas. Vous, ça vous a tout de suite parlé ou pas ?
tout de suite.
Oui, puisque mes souvenirs, mes premiers souvenirs ASMR, c'est des souvenirs d'enfance. Vous voyez, c'est peut-être même ma mère ou mon père qui me racontait une histoire. C'était le son des ciseaux quand j'étais tout petit et que j'ai eu mes premiers coiffeurs.
C'est vrai, c'est fou.
Bien sûr, le shampoing, vous savez, cette mousse onctueuse. Bon, désolé pour le onctueux.
Mais ça fait pas tellement de son, le shampoing. Ah si, ah, ça fait un petit...
Si, bien sûr, je vous invite à écouter des replays sur YouTube. Vous verrez, vous avez pléthore de
son
jeux
de mousse
de rôle.
Qui craquote, là, je sais pas comment on peut
de gens qui s'improvisent coiffeur.
C'est drôle. C'est quoi les types de sons, vous, qui vous transportent le plus, alors, tout du moins, en tout cas, au début, quand vous avez démarré? Et donc, qu'est-ce que vous écoutez le plus aujourd'hui, même, peut-être? Est-ce que vous en fabriquez de l'ASMR, mais peut-être que vous en profitez aussi des bienfaits encore?
Alors, je vais volontiers vers des youtubeuses anglophones, plutôt, qui sont des personnes très douces, très rassurantes. Je trouve que l'ASMR, c'est aussi une intention. C'est pas juste le son, c'est aussi la personne qui va prendre soin de vous, qui va vous écouter, qui va vous regarder dans les yeux et avec bienveillance. Moi, j'en ai deux, c'est Maria Gentle Whispering et Whispers Red, qui sont deux grandes stars de l'ASMR et vraiment comme deux fées. Vous savez qu'on a sorti d'une forêt de Brocéliande et qui viennent prendre soin de vous.
Alors, on parle de déclencheurs, de triggers, c'est ça?
Tout à fait.
C'est quoi, par exemple?
Bah, par exemple, si je tapote sur mon iPhone, ça c'est très satisfaisant justement. Vous voyez, c'est doux, ça peut évoquer le clapotis de la pluie sur une vitre. Bon, bah ça, par exemple, moi, ça me, en 3-4 minutes, je m'endors. Vous voyez, ça m'éteint, ça me débranche complètement, puisque ça chasse les pensées.
Vous pouvez le refaire un petit peu, juste là?
Bien sûr, on peut même le superposer, si on peut tous le faire.
Alors, par contre, il faut qu'on se taise. Chut.
Voilà.
Est-ce qu'on peut faire autre chose pour donner des idées à nos... Peut-être vous avez un... Il y a ce qu'on appelle les roleplay, c'est ça?
Bien
vous
n'en
avez peut-être pas en tête, je ne sais pas, mais on peut essayer quelques secondes, quelques minutes. Allez-y.
Alors, un jeu de rôle, c'est compliqué, mais par exemple, je peux vous lire, je peux vous réciter Paul Éluard.
En ASMR,
en
alors.
En ASMR.
Allez-y.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages exemple.
C'est génial.
Ça fait,
ça fait bizarre de parler normalement après. Alors comment vous faites vos vidéos? D'où viennent vos idées? Et ça prend combien de temps à écrire, à enregistrer, tout ça?
Alors, comme je vous disais, c'est très intuitif, l'ASMR. Je ne suis pas réalisateur. Je fais des petits courts-métrages en partenariat avec des musées. J'adore associer l'ASMR et la culture, Versailles, le Louvre, etc. Mais il y a vraiment un aspect intuitif, c'est-à-dire que je ne suis pas ni Kubrick, ni Spielberg. Je n'ai pas cette prétention. Je cherche surtout à déclencher une sensation chez mes auditeurs. Et pas que moi. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que tout va être prétexte à déclencher cette sensation. Donc, si vous tombez sur ce genre de vidéo et que vous me voyez moi ou un autre, il se peut que ce soit très étrange parce que tout est codifié en fait. De la voix qui chuchote, aux gestes qui sont, aux mouvements très lents. Il y a aussi des mouvements, vous savez, de la main.
Moi, par exemple, expliquez-nous quelques codes justement. C'est quoi les codes des mains? Alors, il y a des codes,
alors,
vous dites.
Le code des mains est relié aux neurones miroirs. C'est-à-dire que votre cerveau croit que ce qu'il regarde, on le lui fait. Comme quand vous observez quelqu'un se faire masser, il se peut que ça vous détende. Mmh. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un tourner les pages d'un magazine lentement ou essuyer des vitres, il y a quelque chose de satisfying.
Ah oui.
Ou la pâte à modeler, vous savez, le slime, les choses comme ça. En fait, c'est mon cerveau qui croit qu'on lui fait ça. Et du coup, il y a une espèce de connexion à des moments très triviaux de la journée, comme je vous disais, hein, laver des vitres. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder parce que ça vous fait fondre le cerveau.
Mais c'est comme un feu de cheminée.
Ou
le feu de cheminée qui nous endort, ou pas vraiment?
Pour moi, le feu de cheminée, peut-être le son, mais c'est, je trouve ça très cliché, en fait. Hein, la mer, le son, ça fait très... vous savez, les CD de relaxation...
Ça, la SMR, on est d'accord. Non, encore une fois, ce n'est pas les gouttes d'eau dans la four amazonienne, ou ne sais quoi.
Ça pourrait, mais disons que on ne cherche pas à associer, on ne cherche pas d'association, vous voyez, avec un univers. Ça, c'est plus de la sophrologie. Vous voyez, de voyager mentalement, faire de la visualisation. La ASMR, c'est vraiment ressentir. Vous êtes dans votre corps et c'est aussi pour ça qu'on s'endort plus facilement, parce qu'on se reconnecte à soi, au corps. On a vraiment un besoin de reconnexion.
Alors justement, j'allais vous poser la question, à quoi ça sert en fait à se relaxer? Mais non, mais
pour vous endormir, vous, peut-être à 20h.
Justement, oui. Est-ce que ça peut servir aux gens qui nous écoutent, ceux qui ont du mal à trouver le sommeil? Est-ce que c'est une bonne indication pour cela, la ASMR?
Alors, au XXIe siècle, dire à quoi ça sert, oui, ça peut nous servir dans notre vie d'occidentaux qui va à toute allure, à ralentir, à ressentir son corps, à écouter son corps aussi, c'est-à-dire que comme c'est une sensation qui vient à nous et c'est pas nous qui la provoquons. Vous savez, si vous voulez vous endormir, vous avez beau vouloir, vous n'allez pas vous endormir. Et bien, la ASMR, c'est pareil. Si je veux le ressentir, si je veux la ressentir, cette sensation, eh bien, elle va arriver quand elle aura envie d'arriver. Alors, il y a effectivement des déclencheurs. Donc, ça peut calmer les angoisses. Ça peut permettre de tuer l'ennui aussi, malheureusement. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui, parfois, sont, par exemple, en rémission, vous savez, ou en prison. J'ai déjà eu des lettres de prisonniers qui me disaient, je t'écoute ou j'écoute d'autres parce que ça me permet de m'apaiser aussi. Je vous disais qu'il y avait une forme de bienveillance aussi dans ces vidéos-là. Donc, on fait un petit peu son marché, hein, on va sur YouTube et puis on prend ce qu'on a envie d'écouter, de la voix, pas de la voix, du tapping, etc.
Est-ce que vous en découvrez encore des choses, des bruits qui font du bien? Votre dernière découverte pour une de vos vidéos peut-être, c'est quoi justement un truc étonnant auquel on n'aurait pas pensé au départ?
Moi, ce qui me surprend le plus, c'est quand je travaille avec un musée, un lieu de culture. La dernière expérience, c'était Marcel Proust, d'observer des objets, d'observer des peintures et de laisser justement, alors là c'est un travail, pour le coup c'est un travail, mais d'aller imaginer le son, vous savez, dans une peinture, d'aller imaginer la texture qu'on peut toucher, le tissu. J'ai fait ça à Versailles aussi avec le brocard d'or dans la chambre du roi.
Et donc wow. C'est un récit que vous écrivez, c'est ce qu'on appelle un roleplay, c'est ça ou
pour
c'est
le
pas
coup,
ça
voilà, pour le coup ça c'est beaucoup plus écrit.
Après, et vous le faites en chuchotant après, c'est ça?
Absolument.
Ce récit de ce qu'il y a dans la peinture, vous racontez le bruit de l'eau et...
Tout à fait. Tout à fait, je trouve que les mots n'ont pas la même résonance quand on les chuchote.
Alors souvent les gens trouvent ça bizarre, donc déjà pourquoi ils trouvent ça bizarre? Est-ce que c'est un peu du fétichisme l'ASMR parfois? Je crois qu'il y a des vidéos d'accro au latex par exemple, au bruit du latex.
Ben, comme je vous disais, il y a deux choses. Déjà, quand on vous donne une plume, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc si on vous dit chuchoter c'est de l'ASMR, vous allez pouvoir chuchoter ce que vous voulez. Donc l'ASMR érotique, sensuel, pourquoi pas, il y a une autre grille de lecture en plus de la relaxation, qui sera peut-être pas forcément compatible. Et puis la deuxième chose, c'est aussi notre regard sur le corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça, à ces codes-là de douceur, on baisse un peu les armes. Et ce qui fonctionne justement sur YouTube, c'est l'aspect anonyme, c'est-à-dire que les personnes qui regardent ça sont dans leur lit, elles sont tranquilles, elles pensent qu'elles ont quelqu'un qui leur parle, qui leur susurre des mots, etc., qui leur chuchote des choses.
Donc c'est ça, chacun va y chercher un peu ce dont il a besoin finalement. Ça peut être sensuel, ça peut être juste du repos, de la détente, enlever de l'anxiété. Est-ce qu'il y a des études scientifiques déjà sur le sujet, sur les bienfaits éventuels de l'ASMR?
Il y a des études plus aux États-Unis, l'université de Shenandoah par exemple, qui a montré que des zones du cerveau se déclenchent différemment, des zones sensorielles. On a pu aussi montrer que le rythme cardiaque ralentit encore plus qu'une relaxation classique. Sont des choses qui montrent qu'il y a vraiment un effet physique et puis un effet cérébral aussi. Alors c'est que les balbutiements,
mais déjà il y a les études à la clé. Merci beaucoup Florian Boulot pour cet éclairage très détente, c'était très agréable sur l'ASMR, technique de relaxation que l'on comprend mieux maintenant. Et je crois qu'on va peut-être se laisser tenter, Mélanie, je crois que vous êtes déjà à fond.
Carrément.
Votre chaîne YouTube, ça s'appelle Paris ASMR pour ceux qui veulent s'initier très rapidement.
Merci encore Florian, moi je me connecterai dès ce soir. Bon, on va passer
merci
à notre séquence tendance dans un instant. Il y aura d'abord la chronique gastronomie de Sophie Menu qui va nous dynamiser, elle pour le coup finit l'ASMR là pour le moment. On va mettre du café dans notre assiette ce midi. Ensuite, on écoutera la chronique tendance d'Edouard Dutour. Aujourd'hui, il nous propose un florilège des tendances qui seront à l'honneur en 2022. Il faudra ressortir son collier de perles et se mettre à l'escalade. C'est tout ce que je vous dis pour le moment. Et enfin, il y aura les conseils beauté pour bien démarrer 2022, les conseils beauté de Maud Ravier. Elle va nous aider à détoxifier notre peau pour démarrer l'année avec un teint radieux. Tout ce programme alléchant, c'est bien sûr sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Julia Vignali du lundi au vendredi en direct. Alors tout de suite, on va lancer notre fameuse séquence tendance et vous le savez, à midi, ce sont les tendances gastronomiques qui ouvrent le bal. Ce sera votre mission du jour, Sophie Menu, bonjour.
Bonjour.
On sera bien en forme après vous avoir écouté car on va manger du café, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Hein, ça va être génial.
Mais ça se mange pas le café?
Je crois pas. Si, Julia, vous allez le voir, bon, ça se mange.
Ok, bah, c'est une bonne bonne nouvelle. Ensuite, ce sera à vous, votre tour, à vous, Edouard Dutour. De quelle tendance allez-nous vous parler ce midi?
Allez-vous, nous, je crois que j'avais inversé les mots, mais c'est pas grave.
J'ai pas bu assez de café. Dans tous les sens, ça fonctionne avec les tendances. On va faire une petite, un petit passage en revue des tendances, comme ça on sera à jour dès le début de l'année.
Mais en mode, je sais pas, donnez-nous quelques idées.
Alors,
collier de perles, grand-mère.
Je vais vous parler de sport, je vais vous parler de psychanalyse, je vais vous parler de votre mamie, de tout le monde.
Oh, bah, c'est génial.
Branché à la mode, tendance, accessible à tous.
Un beau pêle-mêle, super. Et enfin, fin, ce sera à vous, Maud Ravier, qui allez, vous allez nous régaler avec vos conseils beauté. Comme d'habitude, vous êtes en ligne avec nous, Maud. Bonjour.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bah, nous, on va parler de la détox dans l'air. Bah, hein.
Exactement, on va parler de la belle peau après les fêtes. Comment on va faire pour retirer toutes ces nuits blanches champagne et ces excès de chocolat?
Merci beaucoup Maud, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on passe en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Ah Sophie Menu, moi je sais pas vous, mais il est midi et c'est l'heure à laquelle je commence parfois à avoir un tout léger petit coup
de
mou.
Oui, on l'a entendu avec votre diction,
oui,
effectivement.
Les mous se mélangent. Ou c'est la ASMR qui m'a très beaucoup relaxée. Je me suis levée peut-être depuis 3h30, c'est pour ça. C'est justement le moment où je prends mon premier petit kawa. Mais là, ce que vous nous proposez aujourd'hui, bah, c'est de carrément le manger le café, c'est bien ça?
Carrément, tout à fait. Tout à fait, Julia. Alors, si vous avez besoin d'un petit coup de fouet, c'est aujourd'hui. Le café, effectivement, c'est bien plus qu'un expresso. C'est un petit grain qu'il y en a sous la semelle. Alors aujourd'hui, je vous ai gâté parce que je vous ai apporté 3 produits différents. Alors, on va commencer par le côté sucré, un carré de café. Alors, c'est une première mondiale.
On dirait un carré de chocolat, mais c'est pas ça.
Non, il n'y a absolument pas de chocolat dans ce carré. Alors ce carré de café, il a été mis au point par le journaliste gastronomique Vincent Fergniaud et son copain Pralu, le célèbre chocolatier. Mm-hmm. En fait, Vincent avait envie de retrouver le goût de son enfance. Et vous savez, le petit carré qu'on met dans le pain, là, avec la baguette de pain.
Ah oui,
de
c'était vraiment bon. C'était bon.
Mais ça. Lui, c'est un fou de café.
Et donc, au lieu de le tenir dans votre main, vous allez nous faire passer à un moment donné. Et alors, on prend juste un petit carré, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, parce que... Alors, attention.
Je vous donne qu'un carré, Julia.
Oui, ça Julia.
Je vois, elle veut prendre la tablette.
Attention
un carré.
À la surdose.
Exactement, Julia, voilà. Parce que un carré égale un expresso.
Mmh. Ah oui, mais j'ai bien fait lui donner qu'un carré, parce que sinon, elle ne dort pas cette nuit. Hein.
C'est pur café. Alors, c'est très fort, hein. Il faut aimer le café. Hein. Faites peut-être passer aussi à Edouard.
Il y a des grimaces dans le studio.
Non,
là.
J'adore. Franchement, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Hein. Le café, à part le boire, tout ce qui est au café, je déteste et ça, je trouve ça très bon.
Je sais, Mélanie, vous me l'aviez dit. Alors,
oui,
c'est pour ça que je voudrais vous faire changer d'avis. Je vous ai apporté autre chose.
Fait, hein.
Alors, quelque chose de salé, c'est une tatin de navet sauce café. Alors, ça, vous regardez comme c'est beau, je vais vous la faire passer pour que vous la goûtiez. C'est le chef Baptiste Renoir du restaurant Ocre à Rueil-Malmaison, juste en face,
Oh là là là, c'est beau.
Qui a fait pour nous, il l'a livré ce matin, hein, juste avant...
Ça a une très bonne tête, en tout cas.
C'est magnifique.
Mais pourquoi Edouard, il en a pas? Parce qu'il est loin au bout de la table.
Parce que je suis très en forme, pas besoin de café.
Parce que moi, je n'en ai pas touché. Je vais donner ma part, je crois que j'aime pas trop. Et ça m'a pas plu, je vous dis la vérité.
Le carré de café?
Ah ouais, c'est fort. C'est fort de café, quoi.
Tatin
de quoi? Redites-nous, là, ce que
Vincent, tu nous en veux pas, parce que Vincent, c'est un grand copain, c'est un super journaliste.
Mais moi, j'ai adoré.
Non, Julia, c'est le carré de café qu'elle a pas aimé, c'est pas la tatin.
Non,
la tatin, elle est sublime.
Elle va adorer.
C'est beau. C'est...
Mélanie, il faut que vous mangiez la tatin avec avec la sauce au café. Parce
Donc je la mets dessus
C'est ça l'idée.
Ouais. Ah d'accord, mais c'est quoi cet engouement autour du café de ces dernières années? Ça monte.
C'est dingue. C'est vrai que les choses ont bien évolué depuis qu'un moine soufi a rapporté du Yémen quelques grains de café qu'il a planté en Inde. En France, le premier café soluble a été imaginé en 1881 pour l'armée. Et les premières machines expresso sont arrivées en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et figurez-vous, alors je ne veux pas du tout vous mettre le moral à plat, mais en matière de café, on parle aussi de vagues.
Ah mince.
Comme en matière de virus.
Le cinquième, quatrième.
Exactement.
Dinguissime, la tatin de navet au café. Là.
C'est dingue, non? Mélanie, vous allez changer d'avis alors sur la sauce café.
Oh là là, c'est bon.
C'est bon, hein? Ouais, c'est super bon. Julia, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est délicieux.
Trop bon.
Julia, elle parle même plus tellement c'est bon. Alors en fait, on est à la quatrième vague, mais les vagues dans le café, c'est que du positif en fait. La troisième signifiait le retour de la torréfaction traditionnelle, et la quatrième synonyme de traçabilité totale du torréfacteur au producteur. C'est cette vague qui est suivie en ce moment par les torréfacteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 artisans qui torréfient les cafés, qui sont sourcés donc au bon endroit.
Bravo en tout cas pour ce tatin de navet donc de chez du restaurant Ocre, hein, donc
Ocre.
À Rueil-Malmaison.
Baptiste Renoir, une étoile Maud Michelin.
Maud Ravier, vous êtes en ligne avec nous, hein, parce que vous êtes là, mais alors j'aimerais pas être à votre place, vous êtes bien loin pour goûter tout ça.
Non, c'est pas très sympathique parce que je vous entends tout manger
vous
des carrés
café?
De chocolat, etc.
Pardon Maud, on vous garde un peu de carré.
ça serait sympathique, effectivement.
Alors Sophie, justement, vous nous disiez qu'il y a des tas d'autres façons de préparer le café. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des choses qui se font aujourd'hui?
Tout à fait. Alors est-ce que vous connaissez l'infusion fusion de cascara.
Pas du tout.
Alors, en espagnol, cascara, ça signifie peau, coque et écorce. En fait, c'est ce qui forme l'enveloppe de la cerise de café, puisque le petit grain de café, en fait, il est enveloppé dans ce qu'on appelle une cerise. Et on a découvert que quand on la fait sécher et infuser, elle donne une infusion délicieuse que l'on déguste chaude ou froid et qu'on trouve maintenant dans le commerce.
Ah, d'accord. Mais est-ce que ça contient autant de caféine qu'une tasse de café ?
Non, alors moins que le carré de café que vous avez goûté.
Ah oui, ça c'était énorme.
Julia, en fait, ça donne juste un petit coup de fouet. Mais en revanche, la boisson est remplie d'antioxydants, de potassium. Et en fait, on la classe même dans la catégorie des super-aliments. Vous connaissez les super-aliments.
Sophie, est-ce que vous avez d'autres idées pour préparer le café ? Peut-être même une petite recette pour nous ?
Oui, je vous ai apporté. Alors, il faut que vous buviez ça. C'est un cold break.
On va être bien réveillé à la fin de cette émission.
Objectivement, visuellement, ça fait pas très envie.
Non, alors, ça fait juste chaussette, honnêtement. Oui,
Edouard, vous êtes pas sympa parce que je l'ai fait hier soir de mes blanches mains.
D'accord.
En fait,
c'est bon. Hein.
Le cold brew, c'est tout simple. J'ai broyé des grains de café pas trop finement. Mm-hmm. J'ai mis de l'eau minérale par-dessus. J'ai laissé au frais. Et en fait, c'est une infusion à froid. Et ouais. Je l'ai passé ce matin avant de vous retrouver. Et en fait, voilà ce que ça donne. Et c'est très à la mode aussi, le
d'accord.
Col bray.
J'aime moins quand même, Sophie.
Région,
même si c'est vous qui l'avez fait au blanc chemin, je suis désolée, mais j'aime moins.
Dans ma région, dans l'Est, on appelait ça un café vosgien. Je sais pas pourquoi.
Ah
quand
ouais,
on mettait plein d'eau comme ça dans le café.
Ouais, c'est très dilué.
Voilà.
Ouais. Alors c'est moins fort.
Non,
alors
ça fait un peu tisane en fait. Hein,
ça fait un petit
tisane. Il y a un petit côté tisane au café, quoi, c'est ça.
Tout à fait. Alors je vous propose autre chose, Mélanie. Je
allez,
vous propose un café frappé.
Alors, je préférais ça.
Recette.
Peut-être.
On prépare un expresso assez fort, on le laisse refroidir et on le place dans un blender avec des glaçons. On mixe très fort, on verse du lait, un peu de crème et on met un peu de chocolat en poudre. Ça, c'est très gourmand.
C'est tout ?
Non, j'ai aussi un affogato.
Alors, j'adore ça.
Affogato, vous connaissez ce que
c'est ? Ouais, j'adore
ça. Edouard, affogato, en fait, en italien, cela veut dire noyé. Vous devez le savoir, Julia.
Bien sûr.
Et on place une boule de glace vanille au fond d'un verre et on verse dessus un expresso brûlant. Ça peut presque servir de dessert quand on n'a plus très faim, mais qu'on a envie un peu de douceur.
Et Sophie, côté salé, en cuisine, le café, ça marche aussi ?
Oui, ça marche aussi. Alors, évidemment, il y a les grands classiques de pâtisserie, on les connaît tous. Hein, tiramisu, éclair au café, parfait au café, l'opéra, vous savez, ce gâteau mythique chocolat-café. Et qui sont évidemment délicieux. Il y a donc cette tatin au navet. En fait,
incroyable.
Ce qu'on voit dans cette recette, comme d'ailleurs dans les carrés, et je ne vous ai pas fait passer les perles de café que Vincent nous a apportées aussi. Il faut que vous goûtiez,
on va goûter,
Julia.
On va goûter.
En fait, le café, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est ça apporte son amertume et l'acidité aux préparations. Et la chef Anne-Sophie Pic a même mis à sa carte un plat qui est assez incroyable. C'est une huître qu'elle sert avec une infusion de café.
Incroyable.
C'est hyper
de
bon.
L'huître au café, génial.
Ouais.
D'autres idées de recettes aussi.
Oui, alors,
rapidement.
Mélanie, une recette pour vous ce soir. Alors, vous achetez des topinambours, vous les pelez. Ça, c'est la partie la plus embêtante. C'est toujours un peu compliqué à éplucher les topinambours. Vous les coupez en petits morceaux, vous les émincez très rapidement, vous faites un bouillon de volaille par-dessus, vous versez, vous laissez cuire, vous mixez très fortement et au moment de servir dans l'assiette, vous ajoutez de la poudre de café soluble.
Ah, génial, avec topinambour,
d'abord,
ça va être intéressant.
D'abord, c'est super beau, le blanc et le noir, et c'est super bon.
Très bien, merci beaucoup Sophie Meunier pour cette redécouverte du café. Moi personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait faire tant de choses avec ce petit grain. Merci Sophie. On revient dans quelques instants avec d'autres tendances. Édouard Dutour va nous parler d'escalade et de collier de perles. Ça devrait être très sympa. Et puis il y aura également les meilleurs conseils beauté de Maud Ravier. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs, toujours avec nous en studio. On est très en forme, notamment parce que Sophie Menu nous a bien shooté au café il y a quelques minutes, un shoot gastronomique.
Entre ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, c'est quoi ? C'est 5-6 expressos en 10 minutes.
Oui. Oh, c'était énorme.
Vous n'allez peut-être pas dormir ce soir.
Merci Sophie. Et à présent, alors lui aussi, un café ou pas, il a toujours la patate. C'est Edouard Dutour. Bonjour Edouard. Bonjour.
Bonjour à toutes.
Alors,
bonjour
de quoi parle-t-on avec vous aujourd'hui ? Vous allez nous parler notamment de grand-mère, c'est ça ?
Je vais vous parler de toutes les tendances 2022, parce que ce qui est pas mal, c'est de prendre un petit peu d'avance, comme ça évite d'être tringard. Et d'être en retard. Mais tout ça, c'est vraiment pour rigoler. Vous savez, le principal, c'est d'être comme on est. Mais quand même, faisons un tour de piste. Vous savez, à Elle, magazine dans lequel je travaille depuis 20 ans, on a un jeu, c'est que chaque année, on décrète quelque chose. Mm-hmm. Le bleu marine, c'est le nouveau noir. Les pâtissiers, c'est les nouveaux rockers, etc., etc. Je vous propose qu'on joue ensemble et qu'on commence effectivement par la grand-mère. Et bien, la grand-mère, c'est le nouveau pote.
Ah ouais ?
Alors, avant, comment ça se passait ? Quand vous étiez quelqu'un de très connu, ou même quand vous étiez un peu moins connu, un semi-people, comme on dit, jamais il fallait arriver tout seul en soirée. Ça faisait un peu le type qui rôde tout seul autour du buffet. Il fallait arriver toujours accompagné d'un proche, ça pouvait être son coiffeur, son attaché de presse, voir son chien, voir un sac à main très cher. Aujourd'hui, il faut arriver avec sa grand-mère. Ah, moi, j'adore cette tendance.
Encore faut-il la voir, malheureusement.
Alors, il faut encore voir sa grand-mère. Mais si vous avez votre grand-mère, c'est la personne la
plus
branchée.
Il faut s'en servir, quoi. Hein,
avec
ça.
Qui arriver en soirée.
Alors, si elle est... On peut prendre la grand-mère de quelqu'un d'autre.
Alors, si on peut prendre la grand-mère de quelqu'un d'autre. Mais le mieux, c'est qu'elle soit anonyme. Si votre grand-mère, c'est Catherine Deneuve, ça marche pas.
Ah, oui.
Ce qu'il faut faire comme Aurel San, comme Julien Doré, comme la chanteuse Angèle avec sa mamie Pilou, ou comme Jacques Mus, en couverture duel que je citais tout à l'heure avec Liline. Il faut arriver avec sa grand-mère anonyme, et c'est ça qui est ultra chic. J'aime bien parce que c'est anti-jeunisme, anti-name-dropping. On vient à quelqu'un qui n'est pas connu, qui est sa grand-mère, et on danse.
Les vieilles personnes n'ont pas de filtre. C'est pour
ça
qu'on les aime.
C'est très drôle en soirée.
Si branché, ça va finir par se louer, hein, les grand-mères, attention.
Avec son chien, ça marche pas.
Allez, on continue.
S'il est vieux, le chien, ça va. Vous allez nous parler d'art, à présent, Edouard.
Oui, je vais parler d'art. Est-ce que vous savez ce que c'est que le NFT?
Ah non.
Le NFT, c'est un peu le nouveau James Koons, vous savez, cet artiste contemporain qui fait des nounours, qui coûte des millions de dollars. Alors avant, on aimait bien les Caravage, on aimait bien Bonnard, on aimait bien Nicolas de Staël, on aimait bien, je sais pas, Soulages. C'est l'émotion qui comptait, vous voyez. Et puis parfois, on avait ce nounours là de Jeff Koons, on comprenait pas trop bien. Ça a été exposé à Versailles, un moment, c'était très connu. Où il y a aussi ces tulipes sur les Champs-Élysées. Mais on comprenait pas trop, mais on disait, c'est pas grave, c'est de l'art. Aujourd'hui, c'est pire. Ce qui est à la mode, c'est les NFT.
Ah oui,
non-fungible tokens. Ce sont des œuvres d'art immatérielles.
Virtuelles,
dont
quoi.
Il faut devenir propriétaire, virtuel. Alors, on peut s'acheter, par exemple, là, il y a une œuvre qui a été achetée de l'artiste Beeple, 69,3 millions de dollars chez Christie's.
Mais elle n'existe pas.
Non. Elle n'existe pas, c'est une œuvre virtuelle. On peut s'acheter une 3D, un tweet, un avatar, tout ça en crypto-monnaie.
Mais oui, je crois qu'il y a le premier tweet qui a été acheté des millions de dollars.
Si vous voulez vendre des tweets, Julia, c'est faisable.
Ouais,
alors, ce qu'il faut faire, mon petit conseil, c'est que si vous ne comprenez rien, vous pensez à Internet il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand on vous parlait d'Internet, vous disiez qu'est-ce que c'est ce truc, ça m'embête. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est l'enfance de l'art. C'est le cas de le dire, donc patientez un peu.
Et la NFT,
vous allez arriver à comprendre ce que c'est.
Je vais attendre une trentaine d'années, parce que vraiment, je ne saisis pas celle-là de tendance. Et au rayon mode, Edouard, qu'est-ce qui se passe en 2022?
Au rayon mode, vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait eu un débat sur le crop top. C'est ce t-shirt très court qui montre le nombril des jeunes filles. Alors, c'est tout un débat qui était même politique, parce que rappelez-vous, le président de la République avait déclaré que lui préférait une tenue décente exigée à l'école. Finkielkraut lui avait dit que ça le déconcentrait de voir ces jeunes filles dans la rue. Et puis les féministes surtout demandaient à ce qu'on foute la paix au corps des filles, qu'elles fassent bien ce qu'elles veulent avec leur nombril. Alors maintenant, ça c'est dépassé. Le nouvel accessoire de mode qui fait polémique, c'est le collier de perles chez les garçons.
Chez
vous avez peut-être vu ça, évidemment, sur les stars.
Harry Style.
Hein. Oui, Harry Style, ou le fiancé de Rihanna, Saproki, etc. chez les garçons.
Vous
très
connaissez ça, Sophie, vous hein. Les garçons ont des colliers
filles,
de perles chez vous
oui.
Pas encore, mais bientôt.
Vous avez peut-être vu pendant les fêtes arriver un cousin, un neveu comme
mais
ça,
non,
avec un collier
encore,
de perles. Alors il y a toujours un vieil oncle pas très cool qui trouve que ça fait efféminé. Pas du tout, ça n'a rien à voir.
C'est la tendance.
Avec la sexualité ou avec ce qu'on veut, c'est la tendance. Il y a ça partout à la sortie des lycées. Et ce qui est génial, c'est que c'est un accessoire bourgeois, mais qui crée la provocation. Et ça me plaît beaucoup.
Alors vous allez nous parler également d'une tendance un peu particulière qui est même illégale. C'est quoi?
Alors ça, c'est le micro-dosage. C'est la nouvelle psychanalyse. Alors avant, on allait chez le psy, parfois, certaines personnes, c'était compliqué, il fallait trouver le bon psy. Parfois, il était freudien, jungien, parfois.
Lacanien,
parfois il déménageait près de chez vos parents, ça vous replongeait dans votre enfance, ou alors il mourait, et là c'était le sentiment d'abandon, bon c'était
mais
compliqué.
Mais alors maintenant on fait quoi?
Et maintenant ce qu'on fait, c'est assez illégal, mais ce qui se fait aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, chez les jeunes actifs, c'est de prendre des mini-doses de drogue. Alors évidemment c'est illégal, c'est dangereux, mais ça cartonne aux États-Unis.
Et vous savez quoi, ça pourrait peut-être arriver en France.
Ça pourrait arriver en France.
Qui disent que c'est vraiment
l'avenir. Et c'est vrai que voilà, ce sont des gens qui prennent un tout petit peu de LSD le matin.
Bien dosé, bien surveillé.
Pour passer une bonne journée. C'est comme votre café.
Ne surtout pas tenter tout seul, évidemment.
Surtout pas tenter, illégal et dangereux à la santé, mais...
Très rapidement, Edouard, tendance voyage, très rapidement.
Allez, tendance voyage, et puis après, je vous laisse tranquille. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On voulait dans le sud. Dès qu'on avait deux secondes, on allait sur notre ordi, les comparateurs de prix, on pouvait se le permettre, ou tout du moins, on rêvait à la chaleur, au soleil. Alors, le Maroc, Minorque, la Sicile, la Grèce, bref, on voulait s'évader auprès des oliviers, du soleil. Et bien maintenant, Il faut aller vers le nord, il faut aller au nord de la Loire. Ce qui est très branché, c'est la Laponie, l'Islande.
Ah, c'est bien au nord de la Loire.
Voilà, Copenhague, Falsterbo en Suède, ou même Roubaix, si vous voulez. Comme le disait Enrico Macias, hein, les gens du nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. Eh bien, en plus, c'est à la mode maintenant.
Donc, en 2022, tous dans le nord. Merci beaucoup,
Jean-Jean,
pour ce focus très intéressant sur ces prévisions tendances qui feront 2022. On fera le point à la fin de l'année pour voir si vous aviez totalement raison quand même. Hein. Mais ne bougez pas, Edouard. Car je sais ce que vous attendez toujours, hein, les conseils beauté de Maud Ravier, avec beaucoup d'impatience. Edouard, donc c'est fini avec vous. Maud Ravier, vous êtes en ligne,
oui,
vous êtes prête à nous détoxifier ce midi. Maud, c'est à vous.
Bah oui, moi je suis contre le LSD et contre le café là. Hein.
Ouais.
On est hors sujet complet avec ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Moi je vous propose de régénérer vos cellules qui ont été jet-laguées pendant les fêtes.
Oui, mais Maud, moi par exemple, ça fait quelques jours que, je vous le dis, hein, j'ai des petits boutons qui apparaissent.
Je n'osais pas vous en parler,
mais c'est vrai,
ça m'arrange qu'on le dise.
Il faut que je soigne cette vilaine peau, comme on dit, et notamment les traits sèches. Est-ce que ça peut être la conséquence de mes excès pendant les fêtes?
Alors exactement, malheureusement, pendant les fêtes, il y a des conséquences avec nos écarts. Les toxines s'accumulent sur l'organisme, dans l'organisme, et ça se répercute sur la peau. Donc en fait, c'est au niveau du foie que tout se joue, car c'est ici que ça se détoxe. Et quand le foie ne peut plus faire son rôle, il envoie tous les déchets vers la peau, et c'est pour ça que les petits boutons ressortent. On peut souvent voir aussi que le teint a tendance à devenir un petit peu gris, un peu jauni. Voilà.
C'est tout à fait vous, Julia, c'est incroyable.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous êtes mon foie est fatigué.
C'est ça aussi, d'ailleurs. Fait la folle hein, pendant une bonne semaine. Alors en fait, Maud, il faut faire une détox du foie pour sauver notre peau, c'est ça que vous nous dites ce matin?
Alors oui, complètement. Donc en fait, il faut déjà, avant de penser à mettre des crèmes et faire des gommages, il faut déjà passer à l'essentiel, c'est détoxifier le foie avec forcément le grand classique, l'inégalable, c'est le citron. Alors on le sait, mais on le fait pas assez, il faut vraiment boire du jus de citron quand on sent que la peau est un petit peu terne, est un petit peu triste. On fait des cures de jus de citron bio, évidemment, pendant au moins 6 jours le matin, ça purifie,
mais à jeun,
ça contribue vraiment. Oui, à jeun, ça, et ça permet surtout de réhydrater le corps et ça aide.
Faut pas avoir des grands estomacs quand même, hein, par contre.
Non, mais vous le diluez avec un petit peu d'eau chaude et puis ça se passe très bien. Et puis tout au long de la journée, moi ce que je propose, c'est aussi de rajouter des rondelles de citron dans votre bouteille d'eau et des feuilles de menthe. Vous allez voir que c'est absolument magique.
Ah, on dirait un mojito en fait.
Eh ben alors exactement, on peut faire le mojito mais sans le rhum.
Ah oui.
Et on fait aussi un complément, on prend des compléments alimentaires donc tels que curcuma, zinc, radis noir. Bon, c'est un tout petit peu moins glamour que le vrai mojito, mais c'est efficace.
Mais c'est efficace sauf si on prend les compléments alimentaires avec du champagne là, c'est
Julia, mais c'est fini les vacances, on vous a dit terminé là.
Non, on prend pas les compléments alimentaires avec le champagne. Donc parce que il faut savoir quand même que l'alcool, c'est ce qui déshydrate le plus le corps. On se retrouve avec des cheveux secs, des lèvres gercées, la peau est terne. Donc
il va plus pour faire le dry January, hein, le mois de janvier sans alcool, dont on parlera demain avec notre invité, le professeur Amine Benyamina.
Voilà. Enfin, on est solidaire avec la peau. Je vous remercie. Donc on va plutôt user et abuser des infusions avec curcuma, cerfeuil, fenouil, gingembre, menthe, mélisse, tout ça, etc. Et la petite astuce très importante, c'est que plus votre tisane est amère, et plus elle sera efficace.
Mais il faut la laisser infuser.
Voilà.
Vous ne pouvez pas voir, hein, parce qu'il y a pas.
Près,
on est à la radio, évidemment, mais sur Europe.fr, vous pouvez voir qu'Edouard Dutour est en train de se baffrer, puisque il n'avait pas fait, il se préparait à sa chronique pendant que Sophie Menu nous donnait du café.
Avant ma chronique pour
et là, il finit toutes les assiettes.
Là, je mange
il
n'y
a pas de
problème
de bouton, ça veut dire.
C'est ça.
Mais j'écoute les conseils d'hydratation de la peau.
Vous avez compris, du citron. Non, mais lorsque moi j'en étais avec vous, c'est qu'en fait je laisse infuser ma tisane et plus elle est amère, plus c'est efficace. Donc quoi, combien de temps
15 minutes à peu près. Ah, c'est vraiment parfait. Oui, c'est pas très bon, mais c'est très efficace.
Non,
donc on y va.
Ensuite, une fois que c'est hydraté de l'intérieur, on fait quoi pour l'extérieur alors?
Évidemment, voilà, une fois qu'on est hydraté de l'intérieur, on va passer sur l'extérieur. Donc moi, je suis pas trop pour gommer alors que la peau, on est en train de la régénérer. Je suis plutôt pour la coucouner, la chouchouter, l'hydrater. Et ce qui est absolument génial, c'est pour retrouver une vraie peau de bébé, ce sont les masques de nuit. On les appelle aussi les sleeping packs, c'est absolument génial. Ce sont des formules donc anti-fatigue qu'on met en couches très fines et on les laisse toute la nuit. Et puis on rince au réveil, voilà, tout simplement. Et du coup, le résultat, la peau est vraiment repulpée, elle
elle est beaucoup plus lumineuse et on est vraiment avec des actifs surdoués de la régénération cutanée. Ce sont des masques super.
Ouais.
Alors j'en ai quelques-uns à vous proposer, alors, si ça vous dit. Donc moi, mes chouchous, ce sont le masque hydratant nuit de chez Clinique, qui est absolument génial.
Oui.
Dans la même gamme, si vous sentez que votre peau tire tout au long de la journée, vous pouvez tout à fait utiliser aussi un spray visage désaltérant pour peau déshydratée. Donc c'est pas la peine de se démaquiller, c'est ça qui est génial, c'est que vous mettez du pchit tout au long de la journée sur votre peau et vous n'avez plus du tout cette sensation de tiraillement. Et un autre masque de nuit que je trouve très très efficace, c'est le masque ciselé qui est à base de fleurs de safran. Ah. Il est exceptionnel.
Moi aussi, je mets des masques la nuit, mais c'est pas pour le même genre de.
Ah, on veut pas un café, Edouard. Oh là là, mais écoutez, j'ai pris toutes vos recommandations, hein, Maud, tout est écrit. C'est bon, après, faut pas en laisser trop sur l'oreiller. C'est ça le problème du masque de nuit. Mais non, merci beaucoup. Oui. En tout cas, le matin, on a une peau de bébé. Maud, merci pour tous vos conseils avec que l'on va évidemment plaisir appliquer à la lettre. Surtout Mélanie qui est déjà en pleine détox, hein. Je crois que les fêtes ont été bonnes. Mais grâce à vous, on va vite retrouver notre peau de pêche. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt. Bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On sera bien sûr de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, qu'avons-nous au menu?
Alors, Julia, demain, du concret dans Bien fait pour vous. On va parler des promotions dans les supermarchés. Vous savez, après les fêtes, on essaie tous de faire un petit peu plus attention à nos dépenses. Mais on se demande parfois si cette promo ou celle-ci dans les magasins, elle est vraiment avantageuse pour notre porte-monnaie. En fait, eh bien, on va scruter tout ça ensemble. Ce sera un dossier en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.